Chapitre 60. Alors que Vincent finit de retirer ses vêtements, l'un des ouvriers insiste. « Vous devriez laisser l'un de nous y aller, c'est peut-être dangereux. » « Ça l'est certainement, mais je suis le plus à même de vérifier si un passage est possible. Merci de votre proposition. » Il tend ses frusques à Charles, qui s'inquiète. « Soyez très prudent, ne prenez aucun risque. Au moindre doute, n'insistez pas. Nous trouverons un autre moyen. » En caleçon long, il lui adresse un clin d'œil. « En êtes-vous sûr? N'avez-vous pas envie de savoir où ce tube conduit ?»« Bien évidemment. Moi aussi, alors je vais voir. » Il teste la température de l'eau du bout du pied et grimace. Elle paraît nettement plus fraîche au moment de s'y baigner. Il s'avance, maintenu à bout de bras par un ouvrier qui l'empêche de glisser. Pas à pas, il progresse lentement. Il songe à ce que le liquide pourrait contenir de toxique, à ce que le fond pourrait receler de pièges. Il surveille même la voûte au-dessus de lui. Toute cette masse de roches, pour être inerte, n'en est pas moins menaçante. Vincent a l'impression de s'engager dans une bouche béante, une gueule ouverte qui peut se refermer brutalement sur lui à chaque instant. Il a désormais de l'eau jusqu'à la poitrine. Plus personne ne le tient, il avance seul. Même s'il sait un peu nager, il n'est pas rassuré. L'eau froide l'oblige à respirer vite, comme si elle lui comprimait les côtes. Il se sert de son pied en éclaireur pour palper le sol et essayer d'anticiper toute mauvaise surprise. « Vous sentez quelque chose ?» demande Charles. « Rien de spécial. » Maintenant immergé jusqu'au cou, il n'a presque plus pied et agite les bras pour se maintenir à la surface. Il va d'une paroi à l'autre pour tenter de sentir une aspérité ou un point d'accroche, mais ne détecte rien. Rien non plus au niveau du sol. Il avance encore. Il n'ira pas plus loin sans s'immerger complètement. Sur la berge, ses compagnons ne le quittent pas des yeux. L'anxiété se lit sur leur visage. « C'est profond, leur lance-t-il, mais l'eau ne semble pas dangereuse. Je vais plonger. » Charles proteste, mais Cavell est décidé. Il prend une large inspiration, bloque ses poumons et disparaît. Ouvrir les yeux ne servirait à rien. L'eau est bien trop trouble et il fait trop sombre. Il s'enfonce. Les parois qu'il sent sous ses doigts sont identiques à celles du tunnel, marquées de coups de burin, mais couvertes d'une fine couche de sédiments. Cette section immergée ne présente aucune trace d'éboulis ni de roches brisées. Malgré son instinct qui le presse de remonter, Vincent se force à rester calme et à garder ses paupières closes. Il nage pour avancer dans le tunnel englouti. Le manque d'air commence à se faire sentir. Ses tempes battent au rythme de son cœur. Il n'a aucune idée de la distance qu'il aura encore à parcourir. Tout à coup, sa main accroche quelque chose. Un barreau, du fer, massif et très résistant malgré les boursouflures de l'oxydation qu'il sent en le parcourant. Son autre main rencontre elle aussi une barre. Il vient de trouver une grille. Il pense aussitôt à celle qu'il a retenue prisonnier dans la cave. Un premier spasme vient lui rappeler qu'il est à court d'air. Il vient à peine de faire une découverte qu'il lui faut déjà remonter pour respirer. Il fait demi-tour, nage avec quelques mouvements désordonnés et émerge en inspirant violemment. Charles l'appelle, lui demande de revenir. Les ouvriers lui tendent les mains pour le hisser, mais il ne les saisit pas. « J'ai trouvé une grille, » lâche-t-il dans un souffle. « J'y retourne. » Il inspire et plonge à nouveau. Il touche les barreaux, en parcourt les limites. La grille obstrue la totalité du passage englouti. Il en tâte les bords pour repérer une éventuelle serrure. Aveugle, il cherche des gonds ou un moyen de levage, mais ne repère rien qui puisse le renseigner sur la façon dont elle s'ouvre. Avide de comprendre, Vincent risque une main à travers les barreaux, puis le bras. La grille l'arrête, mais l'eau, elle, passe librement. Il donnerait cher pour se glisser au-delà et voir où mène ce conduit. Ses mouvements lui demandent de plus en plus d'efforts. L'asphyxie le guette. Il doit à nouveau rebrousser chemin. Cette fois, il se résout à rejoindre le bord, rampant autant que nageant. Son immersion lui a demandé beaucoup d'énergie. « Le tunnel continue, » révèle-t-il, essoufflé. « Mais le passage est bloqué par une grille. Peut-être une herse. » « N'insistez pas, Vincent. » tranche Charles. L'un des ouvriers intervient. « Je suis bon nageur, j'ai du souffle. Dites-moi ce que je dois chercher. » Vincent se redresse. « Un moyen d'ouvrir ou de soulever cette grille. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit fixe. Ce tunnel n'a pas pu être creusé pour conduire à un cul-de-sac. » Il peine à reprendre sa respiration. L'homme se dévêt, entre dans l'eau sans hésiter et se met aussitôt à nager pour éviter de glisser. « Si je mets la main sur quelque chose, je reviens vous le décrire et vous me direz quoi faire. » Vincent acquiesce. L'homme prend une spectaculaire inspiration et plonge.